Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, monsieur.
Oui, mais comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. J'ai repris mon bâton de berger en pèlerin. Oui, c'est mon chemin de croix à moi de faire la route des vins de Clébourg jusqu'à Tannes. Je suis pas encore arrivé jusqu'à Tannes, mais ça ne saurait tarder. On est de retour pour un nouvel épisode. Certains râlent parce qu'il y en a moins. C'est vrai. Et j'assume, il y en aura moins, mais il y aura d'autres choses aussi qui vont arriver. Aujourd'hui, j'ai repris le train parce que les plus belles rencontres se font toujours sur un quai de gare, je le dis souvent. Et souvent, la rencontre avec un vigneron et surtout ces flacons, tel un parfumeur, tel un peintre qui crée avec ses raisins. C'était important et un jour, à une soirée au Cantalou comme d'habitude, je n'ai toujours pas d'action là-bas, j'ai rencontré un jeune homme et la seule fois où il m'a dit bonjour, il a tout de suite sorti un Jéroboam, j'ai dit ça c'est un mec bien, voilà, et j'aime bien, et comme moi je suis, j'adore les mecs bien et qui sont plutôt souriants, j'ai trouvé, il avait un sourire chaleureux et content de voir ma gueule, ce qui était plutôt pas mal, puis il a une belle descente aussi, bon après c'est un Alsacien, donc je suis à Bar, je suis au domaine Stoeffler. Salut Adrien.
Salut Mickaël.
Comment tu vas?
Bah très très bien.
Je suis content de te voir parce que c'est vrai que bon, on se connaît pas beaucoup, mais la soirée qu'on a passée fut l'une des plus mémorables de l'année, de cette fin d'année.
Alors c'était alors pour moi c'était mémorable, mais peut-être pour une autre raison, parce que je suis arrivé un peu tard avec ce Jéroboam, et à ma grande surprise, tous les Jéroboams que les participants avaient ramené pour
la
Saint-Géro, tout était vide. Donc je suis arrivé avec le mien et qui s'est fait vider assez rapidement, mais moi j'ai pas pu goûter grand chose. Mais c'était super sympa quand même.
Tu sais pourquoi 2023 sera une belle année? Parce que la Saint-Géro, c'est un vendredi. Cette année. Et là, Géro, moi je ne dis rien parce qu'il écoute les podcasts.
Il a fait exprès.
C'est ça.
Bien organisé.
Quand je te propose que pendant le temps qu'on est ensemble, on parle un peu forcément des vignes, de ton domaine. On va faire une petite dégustation de vin, mais aussi parler de toi parce que je sais que tu as des passions et t'es sportif. Et c'est bien aussi de ramener un peu ce côté vin et sport qui sont pas toujours les meilleurs. Mais c'est bien. On peut parler de vin sain et d'un corps sain, un esprit sain.
Faut juste bien gérer. L'ordre, c'est d'abord ça. Sport et puis après vin, parce que l'inverse c'est compliqué. Sinon ça va très bien.
Faire du sport après avoir bu du vin, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et puis en plus, t'as un vin que t'as créé, qui rend hommage à une de tes passions dont on parlera, je suppose, tout à l'heure. Ça, tu peux en être certain. Moi, je voudrais connaître déjà l'histoire de... Est-ce que tu peux me faire une petite carte de visite du domaine ? C'est quoi le domaine Vincent Stoeffler ?
Alors, le domaine Vincent Stoeffler, aujourd'hui, c'est 16 hectares, donc majoritairement localisé autour de Bar, donc 13 hectares, et autour de Ribeauvillet, donc 2 hectares et demi aujourd'hui. Alors, ça sort pas de nulle part, hein, c'est en fait dû à l'histoire familiale, puisque la famille de ma mère vient de Riquevire, Unavir et Ribeauvillet. Mon grand-père était vigneron à la cave coopérative de Ribeauvillet, donc avait des vignes un peu partout dans les environs. Et mes arrière-grands-parents étaient vignerons à la fin du 19e siècle à Riquevire. Donc on a notamment récupéré le Chenambourg, une parcelle dans le Grand Cru Chenambourg à Riquevire. Voilà, donc c'est l'histoire, et même s'il faut faire 25 minutes de route, ça vaut franchement le coup.
Bon, c'est vrai qu'en tracteur, ça doit pas être toujours agréable.
Ah, faut une petite remorque, mais... Voilà. Ah, parce qu'en tracteur, sinon, ce serait long. Hein.
Ouais, il y en a qui sont rentrés à Paris dernièrement.
Ah ouais.
Ça doit être sympa, les Invalides. Donc, tu es sur tous les terroirs un petit peu connus, près de... Il y a le Heiligen... Berg, je crois,
ouais.
C'est ça, Heiligenberg, ouais. Parce que Heiligenstein, c'est le village.
Ouais, donc, c'est ça.
Faut juste enlever le. Il y a le Salzhof, t'es sur Salzhof aussi, ouais. T'es sur Kirchberg de Bar. Donc t'as les grands. Affenberg aussi, ou
non,
ça c'est du côté de Bernardsville.
Ouais, par contre, on a le gros coteau qui est donc en face du Kirchberg,
ouais.
Où on était juste avant, donc ça s'appelle le Grafengrit.
Ouais.
Donc aussi exposé nord comme le Heiligenberg.
Ouais.
Donc c'est une colline assez venteuse, donc entre Bar et Mittelbergheim. Donc c'est vraiment un microclimat intéressant, notamment pour des vins frais et des créments. Hein. C'est un très beau terroir avec un sol argilo-calcaire, et surtout ça garde beaucoup de fraîcheur. Donc c'est très intéressant pour beaucoup de cuvées différentes.
Alors toi tu es de plus en plus sur le domaine, tu récupères le domaine petit à petit, c'est ça?
Oui, alors je suis arrivé en août 2019, donc ça fait quelques années maintenant. Alors 6 mois après ma venue, j'ai eu une petite surprise intéressante qui n'est pas passée inaperçue, hein, le Covid. Donc c'est sûr que là, mon apprentissage a été, pas totalement orthodoxe, hein, parce que j'ai dû faire face à des choses... que tous les débutants n'ont pas à faire face, donc c'était pas simple, mais c'était un défi intéressant, et voilà, j'ai dû apprendre différemment et j'ai dû faire avec les événements, quoi.
Mais c'est vrai que ton père, très vite, il est passé du côté plutôt bio, vigne propre. Il a compris qu'il y avait quelque chose à modifier dans notre façon d'aborder le vin. En quelle année il a commencé à se poser des questions et à se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose que je devrais pas faire et il faut que je fasse les choses différemment?
Ouais, alors c'est en fait, j'ai pas trop de problèmes à faire du vin naturel et à me poser des questions aujourd'hui, parce que toute mon éducation a été forgée par ce que mes parents m'ont appris. C'est-à-dire qu'à la maison, c'était vraiment bio depuis que je suis tout petit, quoi. Ça coïncidait avec la période à laquelle mon père a commencé à se poser des questions aussi pour point de vue vinification et vigne. Et je crois que depuis 1995, il planifie une conversion en bio, qu'il a faite officiellement en 2001, je crois. Officiellement.
Tu fais, il fait quand même partie de ces pionniers ouais. Comme Binaire, comme Freak, etc., qui ont eu le tournant assez rapidement, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, bah, dès qu'il a eu les moyens de le faire, c'était nécessaire. Mmh. Il fallait qu'il le fasse. Donc ça, c'est sûr que. Mais bon, c'était quelque chose qu'il envisageait, je crois, depuis déjà ses études, parce que il a toujours challengé un peu ce qu'on lui racontait sur les produits de traitement, sur ce qu'il fallait faire. Il s'est posé tout de suite des questions de est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, c'est-à-dire un problème, un produit. Mmh. Il a toujours remis en question ce truc-là, alors que dans les années 80, c'était quand même compliqué, parce que c'était. Enfin, tout le monde faisait ça.
Oui, parce qu'on a promis Mose et Merveille à tout le monde, et voilà. Au final, pas grand-chose, quoi. À part le cancer, ils n'ont pas obtenu grand-chose pour certains.
Ouais, c'est un pétard mouillé, quoi.
C'est ça. Ouais. Et du coup, toi, dans ton parcours, t'as aujourd'hui, toi, quoi, 28, 29 ans, c'est ça ?
30.
30, t'as essayé, t'as le 3.
Ça y est, c'est bon, là.
Le 3, c'est affiché.
Je rentre dans la trentaine, c'est.
T'es tombé donc très tôt dans la marmite. T'as tout de suite su dans ton enfance que voilà tu voulais reprendre faire comme papa et
alors pas du tout. C'était complètement l'inverse. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais je me suis toujours dit quand on me posait la question forcément en tant que fils de vigneron dans ta jeunesse tout le monde te dit du coup tu reprends non alors j'évitais un peu la question mais ma réponse c'était non. Donc je suis parti à l'âge de 11 ans rejoindre ma mère dans le sud et j' ai fait toute ma scolarité à côté de Montpellier à Sète. Donc voilà j'étais vraiment, je suis resté 10 ans de ma vie. Voilà, je suis resté 10 ans de ma vie en Alsace, mais après j'ai vraiment eu une expérience à côté et j'ai pas vraiment fait toute ma jeunesse dans le milieu viticole. Mais c'est resté dans ma tête comme quelque chose que je voulais pas forcément faire. Puis s'en est suivi mes études et mes premières.
Des études de quoi ?
J'ai fait des études de finance.
C'était vers ça que tu voulais faire un loup de Wall Street
c'était moins l'image. J'avais jamais vraiment cette image de loup de Wall Street. Pour moi, c'était juste que j'aimais les maths et que j'aimais aussi un peu le monde du business, peut-être. Et je me disais que c'était intéressant de ouais. faire coïncider les deux et que c'était quand même un monde où on apprenait beaucoup de choses.
Puis quand on est jeune, on aime bien avoir d'argent.
Voilà, c'est ça. C'était quand même un peu une position intéressante à avoir. Voilà, et puis apprendre aussi beaucoup de choses. Je l'ai fait et je suis allé. Faire des stages là-dedans et enfin avoir mon premier CDI à Londres en banque d'investissement chez HSBC.
Ah oui, t'as vraiment eu une trajectoire qui n'a rien à voir avec le vin et très loin de l'Alsace. Mais très loin de l'Alsace parce que tu savais que si t'allais revenir, ça y est, les griffes ou comme une plante carnivore, le vignoble allait te bouffer ou c'est vraiment quelque chose qui te dérangeait ce qui te faisait pas rêver, quoi.
Je sais pas exactement pourquoi, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu ça, t'as raison. Le fait de se dire, non, clairement pas rebelle. T'as vu l'industrie.
tu peux être rebelle, hein.
mais bon, c'était le. Tu sais, on essaye toujours, je pense, quand on est jeune, de se définir et de se trouver en opposition à ses parents. Hein, on essaye de challenger les choses qu'on nous a appris sur ce que c'est un peu ce que je disais avant en aparté on essaye toujours de tester les limites inverses jusqu'à se poser les questions un peu plus de fond et se dire en fait pourquoi j'ai fait ça et en fait revenir et se dire que on a quitté quelque chose qui au final était pas si mal que ça. Et on comprend pourquoi nos parents ou certaines personnes ont choisi ça et en arrêtant de se dire juste non moi je vais faire autre chose parce que clairement c'est pas ça qu'il me faut donc je me suis posé des questions sur mes valeurs et en fait j'ai fait une espèce de liste sur ce qu'il me fallait et j'avais contemplé un peu aller dans des ONG, des choses comme ça, sur sur l'environnement, dans le domaine de l'environnement, pour les aider peut-être au niveau financier. C'est ce que beaucoup de fonds, beaucoup de financiers font en deuxième partie de carrière pour un peu se racheter une bonne conduite, voilà. Il y a énormément hein, dans les ONG, dans les grosses ONG, dans les boards des grosses ONG, il y a beaucoup de financiers qui ont fait 20 ans à un peu pourrir le système et après ils se rachètent les prochaines années.
À Strasbourg, t'as un boucher qui va ouvrir. C'est un ancien trader et aujourd'hui il ne travaille qu'avec des petits producteurs et il est tout fier de sa reconversion. Donc
c'est bien.
C'est beau. C'est très bien de pouvoir se remettre en question et dire génial. On change de vie. Je trouve qu'il faut avoir du courage, quoi.
Non, mais c'est sûr. Peu importe quand ça opère, c'est toujours bien de le faire. Beaucoup ne le font pas. Hein. Donc voilà.
À quel moment tu t'es dit, bon, ça me titille quand même. Je sais pas, t'as goûté un vin, t'as recroisé ton père. T'avais toujours des contacts avec ton père, si t'étais dans le sud ou si t'étais plus distant
Si, j'ai toujours gardé énormément de bons rapports avec mon père parce que on s'est toujours bien entendu et surtout qu'on se voyait peu. Donc c'est vrai que c'était toujours quelque chose de spécial. Et puis j'ai fini par me dire il faut que je parte de ce métier. Et à ce moment-là, c'était donc en mai 2019. Je ne savais pas encore trop où j'allais, mais je me suis dit bon, j'ai le temps de trouver. Je me suis dit tiens, je vais faire un bar Ljubljana en vélo. Comme ça, j'aurai le temps de cogiter un peu.
Je vous disais qu'il est sportif.
Et donc en 2019, l'été 2019, j'ai fait ça hein, pendant le Tour de France.
D'accord.
Donc je l'ai pas vu passer à Bar, dommage. Et puis je me suis convaincu que c'était une bonne idée.
Donc t'as fait des diplômes, t'as fait ton lycée agricole ou pas du tout ?
J'ai rien du tout.
Ah, pas du tout le diplôme Après, est-ce qu'il faut un diplôme pour faire du vin ? Oui, aujourd'hui, on dirait que oui, mais donc en fait, mais comment tu as appris
Je me suis pris beaucoup de temps au début.
Ouais.
En octobre, novembre, enfin, tous les premiers mois où j'étais là, j'ai lu énormément de bouquins. Sur un peu tout, hein, sur la biologie, sur la géologie, sur les méthodes de vinification, j'ai lu aussi des choses sur Internet, notamment. Il y a des ressources insoupçonnées. Hein. Notamment, en fait, il y a une chose qui est importante, et ça, c'est mon père qui l'a dit, mais enfin, qui me l'avait dit à la base, mais que j'ai fait mien, c'est que on ne peut pas savoir pourquoi on ne fait pas quelque chose. Pour savoir pourquoi on ne fait pas quelque chose, il faut savoir pourquoi, à la base, on le faisait. Et donc, ce que j'avais trouvé très intéressant, c'était le site de l'Union européenne sur les intrants.
Ouais.
Donc là, il y a une liste concrète de tous les intrants possibles et imaginables. Et déjà, c'est très intéressant au niveau connaissance personnelle. Mais après, on sait aussi pourquoi on n'a pas envie d'utiliser ces trucs-là. Parce qu'il y a vraiment tout marqué sur la nocivité, sur les dangers, sur des choses comme ça. Et on se dit, OK, pourquoi utiliser ça et on remet en question beaucoup de choses. Et malgré le fait qu'il y a certains produits que mon père n'utilisait pas, je voulais comprendre de moi-même pourquoi ce n'était pas utilisé.
Et aujourd'hui, tu considères plutôt vigneron ou paysan ou...
Non, vigneron, enfin, je sais pas la distinction. On m'avait dit l'autre fois, je sais plus si j'avais dit viticulteur ou vigneron. On m'a dit, mais non, toi, t'es plutôt autant. Mais je connais pas les différentes définitions de ces mots-là, mais je saurais pas trop comment me définir.
Et le choix que t'as fait maintenant avec un peu de recul, t'es plutôt content d'avoir quitté la finance?
Disons que quand j'ai quitté mon taf, c'était le plus beau jour de ma vie.
Ouais.
Pas celui de mon équipe, parce que dans ce genre de poste, en fait, quand vous décidez de partir, on vous fout dehors dans la seconde.
Okay.
Parce que vous détenez des informations et en fait, ils ne veulent pas que vous l'ébruitiez à qui que ce soit. Et donc, quand on dit ça à son équipe, qu'on part là, tout de suite, maintenant, alors qu'on a plein de sujets peut-être sur le pont, c'était un peu compliqué. Mais c'était bien. Hein.
Ouais, après, c'est vrai que c'est ce qui m'a frappé aussi la première rencontre, c'est le côté solaire que tu as en fait. Très souriant, t'as les yeux qui pétillent quand tu parles de vin. Et en fait, j'ai l'impression que les bouquins t'ont donné un peu cette envie et cette passion-là. Et puis bon, après, t'as aussi un nom, une personne, donc ton père, qui a quand même fait des changements et qui a quand même une sacrée patte aussi et qui sait faire du vin. Voilà.
Ça met un peu la pression, quoi.
Ouais, bien sûr. T'as cette pression en plus parce que t'as... Ouais, après, c'est toujours compliqué. T'as un nom, c'est vrai, à défendre. Bon, est-ce qu'on a toujours un nom à défendre? C'est un petit peu compliqué, quoi. J'ai l'impression qu'on met une pression sur les épaules des gens et qui ne servent pas à grand chose, moi, à mon sens. Bon, après, ce que j'ai goûté de toi, pour le moment, n'a pas l'air si, est très bon, d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup et je pense qu'on est beaucoup à l'apprécier. Et puis, bon, après, il faut que tu fasses Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir aussi comment vous évoluez, parce que c'est toujours ce que je dis, la force de l'Alsace, c'est que je peux aller sur les anciens, sur les plus jeunes, etc. Quoi. Et on a un vivier, on a un dynamisme qui est incroyable. Et quand moi, je regarde un peu de haut, quand je prends un peu de hauteur, je me dis peut-être qu'un podcast comme ça, je pourrais peut-être pas le faire dans toutes les régions non plus, avec une telle richesse à la fois de terroir, de vin, mais d'histoire tout simplement. C'est bien ce que je dis, c'est l'histoire d'un homme, d'une femme qui fait du vin, tout simplement. T'as d'autres passions, ta passion de pour l'escalade. On va en parler un petit peu parce que tu es un vigneron, mais tu es aussi un grand sportif. Le vélo, tu aimes bien, l'escalade, tu aimes bien. C'est important. Quel est le... Parce que bon, on va se dire que tu n'as pas vraiment l'image du vigneron, quoi.
Ouais, ça a toujours été important, comme je disais, hein, j'ai fait 1000 bornes en vélo et c'est un des défis que je voulais me mettre et c'est super important parce qu'on a le temps. Ouais. C'est vraiment un moment où on prend le temps de réfléchir parce que aujourd'hui, c'est tellement simple de prendre son portable et on n'a jamais des moments d'ennui. L'ennui n'existe plus, non. En fait, aujourd'hui. Et j'avais lu quelques trucs là-dessus. Et en fait, le seul moment aujourd'hui où on peut vraiment s'ennuyer, c'est soit être sur une chaise à vraiment rien faire, soit être sur un vélo et puis pédaler, quoi. Mm. Et donc là, il y a plein d'idées qui viennent dans la tête. On a le temps de réfléchir à beaucoup de choses. On a le temps de prendre des décisions. On a le temps d'intérioriser et de réfléchir sur soi et après ça peut arriver sur d'autres sports peut-être qui sont l'escalade pour moi aussi c'est une grande passion. Après c'est un peu différent aussi parce que c'est plutôt de la concentration, c'est ça qui est un peu différent avec le vélo, c'est que le vélo on laisse un peu aller et les jambes fonctionnent et voilà, faut qu'on continue, mais l'escalade il n'y a pas droit à l'erreur et il faut toujours, ça apprend la concentration, l'espèce de discipline sur l'entraînement, mais aussi au moment d'escalader quelque chose. Quand on fait de la grande voie, par exemple, il n'y a pas droit à l'erreur. Quoi. On fait une erreur, on fait 200 mètres et on est par terre. Mmh. Donc ça aussi, c'est super intéressant sur le fait d'aussi la confiance avec un binôme. Et l'écoute, l'entraide, des choses comme ça, quoi. C'est un sport, l'escalade, c'est un sport qui est très collectif au final, même si on le pratique en individuel. On n'est jamais seul, en fait. En falaise, il y a toujours de l'entraide, il y a toujours de la réflexion commune. Et je trouve que c'est ça qui nous fait avancer dans tout. Et je trouve qu'en Alsace, c'est ce qui se passe aussi au niveau des vignerons qui ont les mêmes appétences au niveau des vins. Je parlerai du groupe de l'association des vins libres, mais il y a d'autres groupements comme ça. Et on a toujours cette bienveillance les uns envers les autres. Et on ne se voit pas comme des concurrents, mais plutôt comme des, comme des partenaires ou comme des amis.
Ouais, puis vous entraidez, c'est là une idée, vous essayez de l'avoir aussi, voir si ça fonctionne. Et justement, dans ta carrière sportive, t'es pas que un sportif du dimanche, donc ça c'est plutôt bien. T'as une importance sur ce que tu manges, parce que bon, tu bois, on boit quoi, t'as quand même tendance à boire du vin. Bah déjà, c'est ton métier. Et c'est vrai que souvent, bah, moi aussi, on me dit, attends, tu fais du sport, mais tu bois du vin, tu sais, c'est l'alcool. Alors souvent, je dis pour rire, mais je bois que des choses naturelles, comme ça la cuite, elle est moins compliquée le lendemain. Mais en plus, c'est vrai, c'est juste que c'est vrai. Mais tu attaches une importance à l'alimentation, à justement ce côté un peu plus sain, parce que tu sais que tu as un métier qui est quand même, entre guillemets, à risque. Puisque bah, quand tu vois les pubs aujourd'hui, la dernière, parce que tu trinques, santé, c'est dangereux. Ça a un peu tendance à m'agacer. Donc, est-ce que tu attaches une importance à l'alimentation dans ta vie de vigneron?
L'alimentation équilibrée, bon, c'est une chose. Après, c'est...
Bon, t'as grandi avec. Hein,
j'ai grandi avec, oui. J'ai grandi dans une famille un peu extrême là-dedans. Moi, je mangeais de la marante à l'âge de 7 ans. Je crois que...
C'est un plat qu'il n'a jamais mangé.
À l'époque, fallait commander ça, je sais pas où. Je sais même pas comment ils ont entendu parler de ça, parce qu'on pouvait pas taper sur Google aliments bizarres.
Il n'y avait pas de...
après c'est surtout la consommation en général, pas forcément que alimentaire, mais qui passe par là aussi. C'est vu qu'on a, en fait, je vois la consommation comme un vote. Donc en fait, vu qu'on a quand même
le choix
et qu'on a les moyens de s'alimenter correctement, je veux dire, on a quand même le devoir de se fournir, surtout aujourd'hui en Alsace, on a une pléthore de petits producteurs et de circuits courts. C'est vrai que j'attache beaucoup d'importance à faire ça, et c'est vrai que c'est plus cher. Mais bon, moi j'ai pas vraiment de frais supplémentaires. J'ai pas d'enfants à charge.
Pas encore.
Pas encore, ouais. Non mais voilà, je veux dire, il y a beaucoup de choses comme ça où on peut du coup faire des choix, et voilà, le plus important c'est ça. Après, oui, il faut manger équilibré, c'est sûr, mais
après, voilà. On vous le dit, hein, mangez moins mais mieux, et buvez moins mais mieux. On n'est pas obligé de se bourrer la gueule tous les jours non plus, hein, mais faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie de toute façon. Et puis dans d'autres cultures, ils disent que boire de temps en temps de l'alcool naturel n'est pas dangereux. Donc voilà, tant que vous faites du sport, bougez-vous, après tout faites-vous plaisir, hein. On va pas non plus, la vie est trop courte pour cela rendre compliqué.
Non mais je pense que tant qu'on garde une activité physique, il faut pas abuser bien sûr du vin, mais il vaut mieux boire peut-être parfois de façon déraisonnable, je le dis bien parfois, ça arrive, et faire du sport plutôt que de jamais boire et jamais faire de sport.
C'est ça.
C'est-à-dire, ça c'est vraiment, après faut choisir.
C'est ça. C'est quoi la patte Adrien aujourd'hui, où est-ce que toi tu voudrais amener le domaine, vers quoi? Alors je sais que tu commences à penser aux arbres, certainement aux haies, t'en as déjà planté quelques-uns, certainement les haies, et puis ouais, la biodiversité qui s'intensifie dans les vignes. Tout à l'heure on a vu pas mal de rapaces, c'était assez...
Ouais, je pensais que tu parlais de la vinif, mais c'est vrai qu'au niveau des
vignes... On peut parler des deux, hein.
Je peux commencer par les vignes, mais c'était un peu anecdotique, mais c'était intéressant. Là, j'ai planté une vingtaine d'arbres un peu partout autour de Bar.
Fruitiers, les arbres ou...
Oui, fruitiers, majoritairement, des cerisiers, des
ça sent
des
le
bêchers,
cidre.
Des...
Ça sent le cidre.
J'en ai déjà fait. On a déjà des pommiers, ouais, j'ai aussi. Mais je trouve que c'est quelque chose de général, parce que c'est pas ces 20 arbres qui vont changer vraiment la donne au niveau biodiversité, clairement. C'est un début, voilà. Mais ce qui est aussi important, c'est au niveau social et au niveau de l'humain, parce que c'est quand même très monotone d'être dans une vigne et de toujours faire la même chose et de voir les mêmes choses et de voir que de la vigne, de la vigne, de la vigne. Et donc au niveau bien-être, que ce soit des animaux mais aussi de l'humain dans les vignes, je trouve que c'est intéressant d'avoir un petit arbre par-ci par-là, une haie, d'entendre des sons, Nous, on a dans la parcelle du Sapsouf, on a une grosse haie au milieu. C'est vrai que c'est toujours sympa de voir des lapins qui se promènent, d'entendre des choses qui se baladent là-dedans. C'est une haie en fait qu'on a gardée à l'époque où on a replanté cette parcelle,
d'accord,
justement à cause de ça. On voulait absolument. Alors, c'était pas moi, hein, c'était mon père qui l'a voulu garder. Donc c'était une très bonne idée. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui saute aux yeux en regardant le Kirchberg, mais il devrait y en avoir beaucoup plus. Donc l'idée, c'est de ne pas essayer d'occuper 100% des parcelles,
oui,
et de voir, de faire des tests avec notamment oui, d'autres haies. Peut-être, j'avais fait des tests là, mais bon, malheureusement, vu que je les ai plantés en juin 2022, disons que les jeunes vignes ont un peu galéré. Donc là, je les ai plantés au pied des arbres.
Okay.
Alors, c'était un test pour voir comment ça se passe, mais... Bon, là, du coup, ça, je vais voir au printemps, mais à mon avis, j'ai peu d'espoir. Et pourtant, je leur ai donné de l'eau, mais là, c'était
ouais,
pas l'année. Hein.
Ouais, c'est pas l'année, ouais, c'est compliqué. L'année. Ouais.
Donc voilà, des choses comme ça. Et en, voilà, augmenter la diversité en général, la biodiversité.
Dans le sol, au-dessus. Et,
des choses comme ça, de la complantation. Enfin, en fait, je me limite à rien. Bah, on a une parcelle qu'on a arrachée parce que vraiment les vignes étaient trop malades.
Ton père complantait déjà ou pas du tout?
Non, pas du tout. Non,
toi, c'est ce que voilà, tu aimerais bien faire, essayer.
C'est des choses que je trouve intéressantes.
Après, avec 16 hectares, tu peux peut-être avoir une petite part, un peu comme disait Queverley, David Queverley, ouais, un peu laboratoire. Tu
oui,
vois,
c'est
peu...
ça, c'est ça. Et puis, encore une fois, c'est pas nécessaire que chaque millimètre carré soit recouvert de vignes.
Non.
Mais on a une parcelle qui est très sujet à l'oïdium et au milieu, puisque c'est donc au Heiligenberg, c'est toujours des parties, c'est une clairière, donc c'est, ouais, c'est magnifique parce que quand on travaille là-bas, voilà, il y a des arbres partout, c'est vraiment top, mais par contre c'est très sujet aux maladies. Donc là, ça se prêterait très bien à une variété résistante, à une complantation de variété résistante par exemple.
Ouais.
Là, vraiment, disons que je m'interdis rien, mais au niveau viticulture, clairement, c'est pas des choses qui change d'une année à l'autre. Par contre, des choses que j'ai fait et qui sont plus rapidement, qui se mettent en place plus rapidement, c'est un test de non-travail du sol. Alors, en regardant différentes choses qui sont faites à droite et à gauche dans le vignoble, j'ai choisi des parcelles qui étaient vigoureuse. J'allais pas faire ça au Kirchberg qui est déjà en PLS tous les étés. Mais là, on avait deux trois parcelles qui s'y prêtaient vraiment très bien. J'ai commencé il y a un an et demi. Bon, c'est en cours de test. On va voir comment ça se débrouille quoi. Mais voilà, il y a vraiment des choses que je teste parce que ça, vu que ça fait quand même que 3 ans que je suis là. Voilà, je mets ça en place et ça se fera bien sûr dans la durée. Hein.
Dans la cave, enfin au niveau des vinifs, tu veux aller de plus en plus parce que tu fais les deux encore. T'as encore les traditionnels propres. Je préfère préciser, voilà, il y a traditionnel et traditionnel.
Traditionnel sale.
Ben ouais, quand même. Bon après, Badia, d'ailleurs, on parlait. Quelle est la place du soufre pour toi dans tes vins?
Est-ce alors, ma position, elle a beaucoup... Alors, c'est vrai qu'en 3 ans...
Elle évolue, elle change.
J'ai eu une évolution extrêmement rapide.
Tu te contredis
à droite,
aussi, parfois.
Voilà. Bon, maintenant, j'ai une position. Elle est à même de changer, peut-être. Hein, mais j'ai quand même pas mal évolué sur le sujet, notamment cette année.
Ouais.
Parce que cette année, c'était un défi monumental de faire du pinard. Donc, jusque maintenant, je me disais, ah, vraiment, le soufre, c'est horrible, il faut pas, c'est pas bien, et vraiment, c'est le dernier recours. Alors, je suis toujours d'avis que c'est un dernier recours, mais aujourd'hui, je me pense que c'est un outil, et c'est un outil comme un autre, qu'il faut utiliser avec vraiment le moins possible.
Oui, bien sûr.
Mais au final, et d'ailleurs nos amis du Cantalou sont d'accord, au final, qu'est-ce qu'on veut ? On veut un vin avec le moins de soufre possible, mais qui est super bon.
C'est ça.
Voilà, on veut un bon vin, Et ben, s'il faut en mettre, parce que...
Si tu mets 2 grammes, on verse un bâton en boulot. Hein.
Voilà, donc c'est... Mais par contre, ça doit rester un outil oui. et pas une liste dans une liste d'ingrédients voilà, d'une recette. Oui. Ça vraiment...
Mais est-ce que... en fait, c'est la réflexion que je me suis fait dernièrement, parce que justement, moi, j'étais aussi une boîte soufre. Ouais, je bois que du sans-soufre, parce que le soufre, bon... Puis moi, un jour, j'ai rencontré Jean-Pierre Frick, qui est pas non plus... Qui me dit, bah non, moi, je mets 1 gramme. Voilà, j'avais pas non plus l'impression qu'il faisait quelque chose, il fallait lui couper la tête sur la place publique. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu considéré attaqué le soufre, un peu comme la tomate en hiver. C'est un peu... C'est un peu le délit de sale gueule du soufre, alors qui, à juste titre, hein, ça reste trop de soufre. On a connu hein, les vins blancs qui te donnaient mal au crâne et c'était insupportable. Mais est-ce que t'as pas l'impression qu'on en a peut-être fait un petit peu trop sur le soufre et peut-être, alors, je vais aller plus loin dans ma question. Est-ce que ça va arriver, on sait sur les bouteilles de vin, mais le côté transparence est une bonne chose. Dire que je mets du soufre dedans, ça serait une bonne chose, non?
Alors, le problème avec l'étiquetage des ingrédients, c'est qu'il ne sera pas obligatoirement sur la bouteille.
Il y a un QR.
Donc, j'ai bien lu, les calories vont être obligatoirement apposées sur la bouteille.
Youpi.
Mais par contre, la liste d'ingrédients pourra être sous forme de QR code. Alors, excuse-moi, mais déjà, sur un produit normal au supermarché, je crois qu'il y a moins de 1% des gens qui lisent la liste d'ingrédients, peut-être plus aujourd'hui, je sais pas, mais je pense que c'est quand même assez...
Sur les boissons, je suis pas persuadé que les gens lisent.
Voilà, mais c'est quand même pas la majorité des gens, c'est pour ça qu'ils ont mis le Nutri-Score. Mm. C'est quand même à la base, parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Mm. Donc on aurait pu voir, en fait, si un produit était sain ou pas. Mais ils ont mis en place le Nutri-Score parce que personne ne lisait la liste d'ingrédients. Donc moi, je suis quand même extrêmement sceptique que les gens vont vraiment se dire « Ah tiens, je vais scanner un QR code et je vais regarder la liste des ingrédients ». Vraiment, ça, je pense pas que ça va être le cas.
Je pense que nous, on va le faire parce que on s'y connaît, tu vois. Moi,
oui.
Avant de faire la dégustation chez Franck Bucher pour le podcast, il avait sorti toutes les analyses, tu vois. Mais bon, moi, je ne demande pas tant.
Voilà.
Je m'en fous. Je fais confiance, tu vois.
Donc ça, c'est dommage.
Ouais.
Parce que là, ils auraient pu faire quelque chose de vraiment bien. Et la seule chose qu'ils ont gardée en obligatoire sur l'étiquette, c'est la chose absolument inutile parce que bon. Je pense que le mec qui compte ses calories par jour parce qu'il est très sportif ou quoi que ce soit, il va pas se dire tiens, je peux me boire 3,5 verres de vin. Enfin, c'est quand même idiot.
On sait que l'alcool, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire du sport. Enfin... On va pas se raconter l'histoire. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, c'est encore une fois le lobby du vin que on soutient pas vraiment, ouais, qui a encore un petit peu gagné. C'est comme pour l'irrigation, le changement des bouteilles, ne pas mettre les noms des villages sur les étiquettes. Enfin, il y a plein de choses qui. Parfois, il y a des combats même dans l'AOC Alsace. Tu te dis, mais il n'y a pas plus important.
Après, c'est un effet d'annonce.
Mais c'est des effets d'annonce, exactement.
C'est comme quand on annonce que dans le journal que quelqu'un a été condamné.
Ouais.
Et en fait, 2 semaines après, il y a un démenti en disant en fait, non, c'est bon, il est lavé de tout.
Ouais.
Bah, qu'est-ce que les gens retiendront? Il a été condamné.
C'est ça.
90% des gens, dans leur tête, ad vitam aeternam, ça restera, il a été condamné.
Ouais.
Et bah, c'est pareil.
Ouais.
Là, on se dit, ah bah voilà, enfin.
Mais je pense que si nous, enfin, nous aussi dans le discours, moi le premier, hein, souvent on a un peu, moi, enfin, sur tous les vignerons que je défends, je sais comment ils travaillent, j'ai aucun doute là-dessus. Et il me dit, il met du chou, et alors, c'est grave.
Mais monsieur, pour revenir sur la question de départ, c'est. Aujourd'hui, on a des gens qui se mettent complètement, en défenseur du sans soufre, absolument zéro, sans plein. Bouteille de soufre dans la cave, à cause des excès d'avant. Si depuis les années 40, 50, on n'avait jamais vraiment abusé de ça parce que c'était devenu trop peu cher, c'est aussi ça le problème, c'est que ça coûte pas grand chose d'en mettre un peu plus ou un peu moins.
Ouais.
Et si on n'était pas tombé dans les excès, et Dieu sait qu'on est tombé dans beaucoup d'excès dans les années 80-90, je pense que les gens n'auraient pas autant vrillé et ne seraient pas allés dans l'extrême opposé. C'est normal que des gens se mettent dans l'extrême opposé. Je l'ai fait moi-même dans... Voilà, c'est une... C'est une évolution naturelle.
Bien sûr.
Jusqu'à ce qu'on se rende compte que, et je l'ai pensé moi aussi, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, voilà, ok, c'est ni ça, ni l'autre, mais c'est un outil, c'est comme beaucoup de choses. Il faut le prendre comme ce que c'est, un outil, et c'est tout. Pour des cas de force majeure, mais qui est vraiment nécessaire aujourd'hui. Hein.
Allez, on va passer à la dégustation.
Allez.
Allez, c'est parti. Place à la dégustation. Donc, les deux premiers, on était sur un Kirchberg et on était sur le...
Riesling Rutschler.
Le Rutschler. Le Rutschler, donc le Godet. Et là, on est sur la dernière création de l'artiste Adrien. J'ai failli dire Actarus, mais Actarus, c'est autre chose. Icarus, tu aimes bien le monde romain ou...
C'était plutôt un clin d'œil à la couleur, parce que bon, c'est... J'ai juste réfléchi, parce que c'est pas facile forcément de trouver un nom adéquat, mais vu que c'est du Riesling macéré en amphore, donc j'avais le côté gréco-romain avec l'amphore, et j'ai réfléchi avec la couleur du Riesling macéré, qui est plutôt assez jaune. Ça me rappelait Icar, qui s'est brûlé les ailes en volant trop près du soleil. Je trouvais ça sympa.
Ah, moi, je trouve le clin d'œil. Et d'ailleurs, c'est marrant, hein, parce que avant que tu dises Icar soleil, je me faisais la réflexion. Je trouve ce vin très solaire, en fait. L'amphore ramène une petite pointe d'oxydation, mais aussi un peu de gras qui fait de ce vin, en fait, il y a une gourmandise. Mais on s'attend à quelque chose de pour lourd, parce que tu te dis déjà sur l'aspect, bon, tu vois qu'il y a de la couleur, quoi. Hein, mais non, en fait, c'est encore une fois, c'est paf, c'est la pâte escalade, en fait, tu vas droit devant. Mais je pense que c'est peut-être ta marque de fabrique, hein, finalement. C'est le côté on va droit devant, on se pose pas de questions et on fait, quoi. Ça marche, c'est cool, ça marche pas, bah, au moins on en réussit, quoi. J'appelle ça des vins d'optimistes, en fait.
C'est sympa, parce que je ne suis pas forcément super toujours optimiste, mais j'essaye, ouais, j'essaye.
Non, moi, je trouve ça magnifique. Ça, c'est un très, 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 très beau vin, ça. C'est waouh. Autant je ne suis pas le premier à défendre le Gewürz Rahminer, mais quand il est fait comme ça...
Riesling.
Riesling, je dis Gewürz, ouais. Oui, pourquoi je suis parti sur Gewürz Rahminer, moi ? Je sais pas.
C'est pas grave.
Donc, je suis pas le premier à défendre le Riesling. Si, le Riesling. En fait, moi, je défends beaucoup plus le Sylvaner que le Riesling, c'est vrai.
Ah ouais ?
Je suis un amoureux du Sylvaner.
C'est le petit canard boiteux, c'est ça ?
Moi, je trouve qu'il a... ouais, c'est un peu... Le petit cépage qu'on regarde pas trop, qui est un peu au fond de la classe, mais qui, je trouve, même s'il a des lunettes parfois, mais il a un peu de charme, quoi. Et je trouve qu'il a une âme qui... Le Riesling, bon, il est un peu partout, c'est un peu le frimeur, quoi. De toute façon, il est en Australie, mais le Sylvaner, il est vraiment chez nous, quoi.
Ouais, et puis c'est une fierté aussi de l'Alsace, hein.
Ouais.
Ça revient en force quand même avec cette...
Ouais.
Justement, tout cet aspect populaire du régionalisme,
ouais,
et
ouais,
du retour aux sources, c'est quand même un cépage longtemps boudé, longtemps arraché.
Bon, parce que le Sylvaner était pas bon, on ne peut pas non plus se raconter
ouais,
l'histoire.
Ouais. Mais c'est là où il y a un problème, c'est qu'on se disait que c'était le problème du Sylvaner, mais on ne s'est jamais posé la question que c'était peut-être le problème de la vinification, quoi.
C'était ça.
Mais malheureusement, maintenant, c'est trop tard. Parce que
non, parce que finalement, on a fait des erreurs.
Ah ouais.
Mais aujourd'hui, de ce qu'on boit dans cette mouvance bio, biodynamie, nature, c'est extraordinaire, quoi.
Ah ouais, c'est top. Mais maintenant, c'est devenu une rareté.
Ouais.
Dans les années 70, je crois qu'on était à 35% d'encépagement en Sylvaner, ouais, ce qui était, voilà, c'était ouais, vraiment un cépage majoritaire. On est tombé à 7%. Ouais. Et on s'en mord les doigts. Je dis que c'est trop tard pour ça, parce que pour retourner au 35,
bon,
c'est peut-être
pas,
pas nécessaire, mais pour retourner à peut-être 15 ou 20%, ça va mettre 15 ans.
Et
quoi.
Dieu sait que c'est, pour moi, c'est un très très beau cépage.
Ah,
mais voilà, même si je le trouve parfois un peu frimeur, le Riesling, celui-là, il a de la, celui-là, il a de la personnalité, et je trouve que sa personnalité prouve encore une fois que tu te places de plus en plus. Voilà, après, c'est sûr que entre ton premier millésime, alors j'ai envie de dire, c'est peut-être ton premier vrai millésime parce que t'étais tout seul à la barre et que voilà, c'est, je pense que t'as pas forcément dû passer les meilleures nuits du monde, quoi. Reconnaissant un petit peu, quoi, voyant un petit peu, mais c'est ça. Et puis bon, après c'est se challenger. J'ai envie de te dire, quand tu montes une falaise, tu poses pas trop de questions, quoi. Donc mais un petit peu quand même, mais bon, t'as la sécurité. Là, c'est vrai que t'as peut-être moins de sécurité que.
C'est plus aléatoire. Là, quand on grimpe, on est avec du minéral. Bon, ouais. Il peut y avoir une prise qui casse, quoi, mais. Ouais. Avec du biologique et du végétal, bon, c'est plus aléatoire et c'est ça qui rend la chose aussi belle,
ouais.
Parce qu'il y a beaucoup plus de variabilité et on est parfois surpris, parfois un peu déçu, mais c'est ça qui rend les choses intéressantes.
Mais en tout cas, Icarus est un très très beau vin, il raconte plein de choses et c'est vraiment la patte, Adrien, on la sent là. Voilà, c'est bien. Allez, place au dernier vin de la sélection, Monsieur Stoeffler.
En plus, tu crois pas si bien dire la pâte Adrien, parce que ça a été pigé à la main dans des bottiches et c'était mes mains. Donc,
c'était tes mains, c'était tes mains.
Donc c'est vraiment ma pâte.
Ah, parce que t'es aussi un des vignerons qui a besoin d'être plus... Ça t'emmerde de faire l'administratif, c'est ça, comme beaucoup?
Ouais. Il faut le faire parce que
il n'y a
pas trop le choix, quoi. Mais c'est sûr que le problème, c'est que j'aime bien être dehors, mais quand je suis dehors, je me dis oula, j'ai ça à faire encore.
Mais t'es où à Strasbourg?
Alors au Cantalou.
Oui.
C'est pas mal, mais voilà, surtout un des partenaires qu'on a depuis très très longtemps. C'est quand même le Pont Corbeau,
oui.
qui ont une très belle sélection, très très belle sélection.
J'ai mangé dernièrement, il y a quelques jours, et je suis toujours épaté des prix qu'ils pratiquent sur les vins.
Ah ouais, non, c'est...
Ils abusent pas du tout, ces prix cavistes. Honnêtement, c'est très accessible.
Ouais, mais c'est vraiment des passionnés. Enfin, c'est vraiment des gens avec qui on a plaisir de travailler, de collaborer, parce que. C'est toujours intéressant quand on a la même vision que quelqu'un et on se comprend, donc c'est vraiment super. J'ai Terravin.
Mais toi, tu aimerais bien être plus présent en Alsace, c'est ça?
Oh, bah, on est dans ta région. Présent en Alsace, ouais. Beaucoup.
Ouais. Ouais.
Mais on peut toujours faire plus.
Bien sûr.
Toujours faire plus. Hein. Toujours. De toute façon, ce serait le top, hein, de rester le plus local possible. Après, on peut pas écouler 100%, mais voilà, moi ça me fait pas plus rêver que ça d'avoir mon vin à l'autre bout du monde. Anecdotiquement, ça me fait plaisir, mais,
oui,
mais bon, c'est pas du tout
écologiquement, c'est pas ce qui est mieux.
C'est pas du tout mon but. Donc le but, c'est de rapatrier tout ça.
Faut redonner envie. C'est pas si compliqué que ça. Quatrième vin, bon bah forcément, on est. Alors souvent, on me dit oui, tu n'enregistres pas assez de ce vin-là.
On se rend compte de plus en plus avec les vins de terroir et surtout en nature. En fait, c'est un vin qui peut être super salin, super concentré, et notamment sur celui-là, en macération. Ce qui, je trouve, amène... Il y a toujours ce côté un peu d'amertume sur les gueules straminaires, oui. Mais je trouve que il y a encore une amertume différente quand on le macère.
C'est ça.
Et ça rend...
Un bel équilibre.
Voilà, ça rend l'équilibre... plus harmonieux et je trouve que l'amertume est délivrée de façon aussi plus harmonieuse et plus équilibrée dans le vin. Mmh. Alors que si on ne macère pas, il manque un peu quelque chose. Et donc de base, c'est même pas un vin qu'on vend dans la liste des vins de macération, parce que pour nous c'est un peu logique que ce soit macéré. Mmh. Donc celui-là et le muscat, c'est toujours macéré, point.
Mais j'adore la couleur. C'est une macération de combien de temps?
Alors, je pense que c'était 7-8 jours, mais il y avait une grosse particularité en 2021, c'est qu'on a une capacité limitée de macération au domaine, Et donc en 2021, il faut que t'imagines que sous le porche de l'entrée, il y avait à peu près 35 bottiches d'alignées.
Ouais.
Alors pas pour toutes les vendanges, mais au maximum, ouais, on avait peut-être allez, 30 bottiches. Et puis voilà, là c'était vraiment à la pâte. Hein. Et comme c'était une macération qui s'est faite à froid, au final on obtient un vin qui est jaune, qui ne prend pas forcément la couleur des gueules raminaires roses. Donc c'est un peu déroutant parce qu'on se dit c'est un vin de macération, mais en fait il reste assez jaune. Et ça extrait des arômes assez... Ça donne beaucoup de gras, je trouve, ces macérations à froid.
Je trouve qu'il y a, il y a du gras, il y a de... mais il y a un bel équilibre sur... ouais.
Et c'est des macérations aussi, parce que je les ai laissées que 8 jours, c'est des macérations qu'on a pressées assez tôt au final dans le processus de fermentation. Et donc, il y a extrait des polyphénols et des choses, des peaux avec peu d'alcool. Et donc, ça rend le vin duveteux et assez gras par rapport à si on l'avait laissé plus, on aurait extrait des tanins et des choses comme ça. Et le fait d'avoir fait ça en bottiche un peu de façon artisanale, hein, dehors, ça exacerbe l'effet millésime. Parce que ça a fermenté par 10 degrés, je pense,
ouais,
la nuit.
Ouais. Mais je trouve ça, ouais, je trouve qu'il y a un très bel équilibre. La macération n'est pas trop poussée, l'amertume du coup non plus. On a plutôt quelque chose qui est gourmand, qui amène le plateau de fromage là. Là, ça sent le fromage de chèvre, petit roquefort aussi. Ouais. Et qui pour une fois, autant moi ça m'agace le roquefort avec du sucre, avec des vins sucrés. Là, je trouve que un beau roquefort là-dessus, c'est ou une fourme d'Ambert, ce serait assez magique. On va passer à la dernière partie avec des petites questions volées, comme ça me vient. Je vais te poser quelques questions, ouais, à la volée plutôt. C'est quoi le dernier vin que t'as bu d'un vigneron alsacien où t'as dit waouh, j'aimerais bien réussir à faire ça. J'aurais bien aimé le faire plutôt.
Alors dernièrement, je crois que c'était un Auxerrois de chez Frick,
ouais.
De 2000.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui, alors c'est depuis que je fais ça, depuis ces 3 ans,
ouais.
C'est vrai que c'est souvent des vins de chez Frick qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses, et notamment le Riesling macéré, parce que c'est par un vin à lui que j'ai eu envie de faire ça, parce que j'ai trouvé un potentiel incroyable, et en fait sous-exploité sur le Riesling. Et là, c'est pareil, parce qu'on utilise de l'auxerrois pour faire dans notre base de crémant. Mais là, vraiment, donc cet Auxerrois 2000 qui était à 13,5 ou même 14 d'alcool, mais avec une fraîcheur qui, clairement, était détendue, mais complexe. Voilà, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, en fait, sur ce cépage, qui est aussi peut-être aujourd'hui sous-exploité, mais pour avoir déjà vu certaines cuvées, j'ai l'impression que quand même c'est assez porteur. Donc ça donne envie de tester ça, et d'ailleurs j'ai fait des essais de Petnat Auxerrois là cette année, mais bon, 2-3 bouteilles, et bah à cause de cette bouteille là
c'est très bien. C'est très bien. Je t'invite à écouter le podcast qu'on a fait ensemble, qui est très très constructif, 5 épisodes. J'avais 2h30 devant moi, qu'est-ce que je coupe ? Je coupe rien, j'en fais 5 épisodes et je suis très content d'être libre. Si tu devais être un vigneron en Alsace, tu voudrais être qui ? Mon Frick, tu l'as déjà utilisé, donc il va falloir que tu échanges.
J'ai un peu ma cantine à bar,
ouais.
Qui s'appelle le Potin.
Okay.
C'est pas une pub, hein, mais quand même.
Tu peux, t'as le droit.
Et il a toujours des vins de chez Christophe Lindenlaub.
Ouais.
Et il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est Agrifa Serré, donc je crois que c'est du Riesling.
Ouais.
Et honnêtement, j'ai goûté encore deux ou trois autres vins de Christophe, mais voilà, j'aimerais bien aller vers là.
Ouais,
je trouve que vraiment, dans son style...
Dans sa folie, c'est faire des vins. Et moi, j'aime beaucoup ce monsieur et le sait. C'est peut-être l'une des personnes que je respecte le plus. Toujours là, toujours disponible, jamais fait la gueule. Toujours une blague à la con.
Ouais, c'est une personne aussi entière. Enfin, ouais. Ça,
ouais,
vraiment,
ouais. C'est ouais, Monsieur Linenhoff, c'est quelqu'un de bien. Et ouais, je suis assez content que tu te pas que tu t'identifies, mais que ça soit une des personnes ressources que tu as.
Ouais.
Je trouve ça très bien. Et
enfin, je connais plus Sévin que lui. On a déjà discuté une ou deux fois, mais c'est vrai que.
Ouais, bah après t'es pas loin, hein. T'as le train aussi en plus. T'es sur la même ligne. Hein. De toute façon, je t'invite d'y aller en train et de revenir en train. Connaissant le personnage, c'est mieux. Tu te rappelles la première chose que t'as dit ton père quand il a goûté tes vins?
Peut-être que pour lui c'est un peu déroutant,
oui.
Parce que c'est pas exactement le style qu'il recherche.
Ouais.
C'est pas vraiment une phrase, mais il adhère au truc. Mmh. En gros, il me dit bon bah si toi t'es convaincu, vas-y quoi. Mmh. Alors lui était toujours, je trouve la grosse différence et ce que j'essaie de changer, c'est peut-être aller sur des vins plus en finesse, plus un peu moins haut en alcool, quelque chose justement de plus sur le fruit, mais peut-être un peu plus de légèreté. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a cette ouverture d'esprit pour se dire si toi t'es sûr de toi, vas-y quoi.
Si tu devais prendre une qualité de ton père ou une chose qui t'a apprise, c'est quoi qui t'a appris le plus?
Ouais, le partage et la patience dans le partage.
Mmh.
Vraiment la passion de la transmission des connaissances.
Tu dirais quoi au mec qui travaille dans la finance à Londres aujourd'hui?
Si j'en voyais un, ouais, j'ai encore des relations.
Non, non, mais si tu... non, l'Adrien qui travaillait...
L'Adrien qui travaillait dans la finance.
Tu lui dirais quoi aujourd'hui à cet Adrien-là?
Continue, tu verras qu'à la fin, il y a quelque chose de bien et te fais pas trop de soucis. Fais ce que tu as à faire pour l'instant et tu trouveras ta voie.
T'as déjà regretté ton choix ou pas du tout?
Non.
Pas une seule seconde.
Non.
J'aurais pu donner la réponse moi-même, ça se voit dans ses yeux. Comme toujours, la dernière question que je pose à tout le monde, je voudrais, parce que ça s'appelle du raisin et des papilles, même si on est sportif et qu'on aime bien manger aussi, il faut pas non plus se raconter d'histoire. J'aime bien la charcuterie, il faut pas se raconter d'histoire, il y a des protéines dedans, donc ne me... je voudrais que tu me fasses pour toi ce qui est le meilleur gueuleton, le meilleur repas. Je veux savoir qu'est-ce qu'on mange, où on mange et qu'est-ce qu'on boit. Le vin, c'est du partage, la table, c'est du partage. C'est quoi pour toi le plus gros gueuleton, ce qui te fait plaisir, ce que tu aimes manger, avec qui et surtout qu'est-ce qu'on boit?
Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais pas tomber dans le cliché, mais quand même une belle choucroute.
Bah, t'as le droit de rentrer dans le cliché, on est alsacien.
C'est pas mal, mais pour plaire à tout le monde, ouais. pour essayer de plaire à tout le monde, c'est une des légumes au four, tu vois, mais avec de l'huile, du beaucoup beaucoup d'ail, tu vois, une belle poêlée où tu ça j'en fais souvent et je trouve c'est super parce que tu fais un gros plat légumes, patates avec des herbes, de beaucoup d'ail, et tu fous ça au four et quand tu le sors, eh ben tu peux le partager avec tout le monde. Ça met tout le monde d'accord. Et là, tu sers ça avec n'importe quel vin de macération. Et tu peux allier ça avec plein de choses.
Tu manges ça avec qui?
Et je mange ça, je mange ça avec tous les vignerons que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant pour échanger sur différentes choses et pour essayer d'avancer sur nos pratiques et essayer d'aller vers le meilleur vin du monde, quoi. et c'est intéressant. Mais bon, si je pouvais faire venir François Damien, ce serait pas mal.
Il y en a un autre qui rêverait d'avoir Patrick Bruel, hein. Qu'est-ce que je te dis?
Franchement, si tu faisais venir François Damien à une réunion comme ça, avec sa barbe du sketch, ouais, sur le pinard...
Ouais. Il y en a d'autres qui auraient aimé avoir Brel, Brassens et Léo Ferré. Bon, voilà. Mais moi, de Funès et Bourvil, j'adorerais leur présenter autre chose que du Meursault. J'aime bien Meursault, mais quand même, bon, je suis chauvin. En tout cas, on arrive vers la fin de cet épisode-là. Comme toujours, c'est ce que je défends. Alors, dans les prochaines semaines, vous pourrez bientôt aller, si vous êtes de passage à Strasbourg, je vous invite à participer au secret de l'Argentoratum, un jeu un petit peu différent parce que je vous invite à découvrir tous les secrets de l'histoire liée entre le vin d'Alsace et Strasbourg. Et l'histoire est juste incroyable et j'ai découvert des choses incroyables que je pense que, j'ai envie de dire 90% des vignerons ne connaissent même pas, et surtout même pas dans le vignoble de Strasbourg, et je trouve ça incroyable. On va continuer, il y en aura moins, c'est vrai, mais je vais vous présenter d'autres portraits de cuisiniers, là j'ai demandé à mes petits bouchers de participer au podcast parce que je les trouve juste géniaux et qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et il y aura notamment celui qui était dans la finance, et ce serait bien d'avoir une rencontre entre Stoeffler de la finance et mon petit boucher qui était dans la finance. Ce serait assez drôle, je trouve, ce serait assez cocasse. En tout cas, j'espère que t'as passé un bon moment.
Bah écoute, c'était plutôt sympa, ouais.
T'es plutôt à l'aise.
Ouais. Non, c'est toujours intéressant de parler de vin. Hein. C'est quand même un sujet hyper dense et varié.
On parlait souvent, avant on disait, oui, il n'y a pas de caméra, mais j'aurais aimé qu'il y ait une caméra juste sur ton regard parce que tu as les yeux qui pétillent quand tu parles de vin, quand tu parles de ce que tu aimes, et peut-être les miens aussi. Au final, on aime ce qu'on aime et on se bat pour ce qu'on aime, et je crois que c'est ça le plus important parce que finalement, le vin, c'est quoi? C'est du partage, c'est les amis, c'est la convivialité. On se connaissait pas beaucoup, mais on a passé un bon moment et je trouve ça assez incroyable. En tout cas, je te remercie pour ton invitation.
Merci à toi.
Buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace.
Hop, skilt.
Skilt. Ciao, ciao.
Salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.